Merci beaucoup Ambre pour cette courte introduction et pour continuer sur l'actualité. Après avoir parlé mercure, houmous, foie gras, marché de Noël à Strasbourg, on a décidé d'aborder le sujet le plus actuel possible, plus actuel que le vin chaud et que les bûches qu'on va déguster bientôt, et de vous parler de la journée d'aujourd'hui. Et oui, pour la 35e année consécutive, le SIDAction organise et fête la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. On ne pouvait donc pas ne pas vous en parler. Et justement, comme l'a expliqué Ambre, pour en parler, j'ai contacté le bureau d'Arc-en-Ciel, l'asso LGBTQIA+, de l'ONS, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, pour voir si certains ou certaines parmi elles et eux voulaient bien m'en parler. Et justement, Jeanne a répondu présente à mon appel. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir à toi. Merci d'avoir pris cette initiative et merci à Transistor de se mobiliser aujourd'hui pour visibiliser les enjeux autour du VIH-SIDA.
Est-ce que tout d'abord tu pourrais nous faire un petit rappel ou une explication de ce qu'est la journée de lutte mondiale contre le sida ? En quoi elle consiste ?
Oui, alors c'est une journée de soutien aux initiatives des associations, des politiques et des scientifiques qui sont engagés dans la sensibilisation au risque du VIH-SIDA. Donc les objectifs principaux, c'est de diffuser les informations de prévention, d'ouvrir le dialogue autour de la maladie, mais aussi de commémorer les victimes et de perpétuer l'histoire de la lutte. Cette journée mondiale de lutte contre le sida, elle a lieu tous les ans le 1er décembre depuis sa création par l'OMS en 1988, donc 7 ans après les signalements des premiers patients atteints du sida aux États-Unis. Et chaque année, la journée a un mot d'ordre, un slogan qui met l'accent sur un enjeu particulier. Et cette année, ce mot d'ordre, c'est « Égalité maintenant ». C'est un mot d'ordre qui souligne en creux les inégalités qui participent à perpétuer la pandémie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui encore, certaines populations sont plus touchées que d'autres et que tout le monde n'a pas accès au traitement, aux moyens de prévention et de dépistage.
Et pour continuer sur les rappels historiques, tu nous ferais un petit retour sur la création du SIDAction ?
SIDAction, c'est une association de lutte contre le VIH-SIDA qui organise tous les ans une campagne de diffusion à la télé et à la radio, un peu comme le Téléthon, dans le but de lever des fonds pour participer aux programmes de recherche et pour aider les associations de prévention et d'aide aux malades du VIH, du SIDA. L'association a été créée en 1994, un an avant le début des trithérapies qui ont amorcé un changement majeur dans la prise en charge des malades. Mais des associations de soutien s'étaient créées plus tôt en France, dès les premières années de l'épidémie, comme AIDE en 1984, et ACT UP Paris, sur le modèle d'ACT UP New York, en 1989. Aujourd'hui, la campagne SIDAction, c'est l'une des mobilisations contre le VIH-SIDA qui sont les plus médiatisées en France, mais il y a aussi d'autres initiatives qui sont assez populaires, comme Solidays, le festival organisé par l'association Solidarité SIDA, qui reverse ses bénéfices à des programmes de prévention et d'aide aux malades.
Et globalement, pour parler aux plus monoïdes d'entre vous, voilà ce que ça donne en chiffres. Donc l'année dernière, l'association a récolté 4,5 millions d'euros de promesses de dons pendant les 3 jours de sensibilisation qu'ont duré leur campagne, un chiffre qui, pour vous donner une idée, approche de le record de dons en 2019. Globalement, les dons sont à la hausse, même s'il y a une période assez dure au début de l'épidémie de Covid, hein, on s'en doute, qui a fragilisé la lutte contre le VIH et le sida. Pour parler chiffres de manière un petit peu plus globale, le VIH dans le monde aujourd'hui, c'est plus de 38 millions de personnes séropositives. Et pour vous donner une idée, une personne est contaminée toutes les 40 secondes. Voilà, donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes contaminées depuis le début de ce direct. Et parmi les personnes porteuses du VIH, 25%, donc un quart, ne savent pas qu'elles sont séropositives. Ce chiffre, je trouve, il est assez impressionnant. Par ailleurs, en France, environ 180 000 personnes sont séropositives. Donc, du coup, près de 25 000 personnes qui ignorent leur statut.
Et parce que l'heure n'est pas seulement à l'histoire ou aux chiffres, on tenait aussi à vous rappeler quelques gestes et des faits de prévention. Et notamment en ce qui concerne la différence entre le VIH et le sida. Est-ce que quelqu'un, quelqu'une parmi notre public saurait expliquer la différence? Oui.
Moi je sais. Pardon, je ne suis pas du tout entendu. Alors si je ne me trompe pas, je me souviens de mes cours de 4e, ou juste plus de 2 secondes. Le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humaine, d'immunodéficience humaine. Donc le virus qu'on peut attraper n'importe quand. Et le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience actif. Et donc c'est quand la maladie se déclare et que le virus a tellement attaqué les cellules de défense que ça crée des effets secondaires.
Alors avant de répondre, est-ce que quelqu'un a une autre proposition de réponse?
Non, je crois qu'il connaît par cœur ses cours d'SVT.
Donc ouais, en gros c'est globalement ça. Donc effectivement, donc c'est important de rappeler que le VIH et le SIDA ne sont pas la même chose. Donc le VIH, comme le disait Yulène, qui signifie donc le virus de l'immunodéficience humaine, c'est donc un virus qui est responsable de ce qu'on appelle le SIDA, qui est la dernière phase de ce virus. Parce que donc pour vous l'expliquer très rapidement, le VIH il évolue progressivement en 4 grandes phases. Donc d'abord, il y a la première phase, la phase qu'on appelle la primo-infection. En gros, il s'agit de l'invasion progressive de l'organisme par le VIH jusqu'à la colonisation complète du corps. Donc concrètement, ça correspond au moment où on passe de séronégatif à séropositif. Ensuite, il y a une deuxième phase qu'on appelle la phase asymptomatique. C'est en gros la période de 2 à 5 ans qui suit la contamination. Et c'est un moment où il n'y a pas forcément beaucoup de symptômes qui sont ressentis, voire pas du tout. Ensuite, on a la troisième phase, qu'on appelle la phase d'accélération, pendant laquelle le système immunitaire s'épuise, et c'est un moment où la réplication virale augmente. Et enfin, on a la quatrième et dernière phase, la phase qu'on appelle donc le sida, qui correspond à la phase où les défenses immunitaires ont suffisamment baissé pour que ce qu'on appelle des maladies opportunistes se développent. Et donc, pour celles de ceux qui, comme moi, ne connaîtraient pas ce que c'est qu'une maladie opportuniste, c'est en gros des maladies qui arrivent quand le système immunitaire a presque entièrement disparu. Et donc cette phase de sida, c'est cette phase qui, quand elle n'est pas traitée, mène relativement rapidement à la mort. Même si aujourd'hui, et notamment en France, la phase sida n'est plus nécessairement mortelle, notamment grâce à ce qu'on appelle les traitements antirétroviraux, plus souvent connus sous le nom de ARV.
Merci pour ce premier rappel. Et maintenant, en pratique, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez une idée des pratiques qui sont sans risque ?
Là aussi, vous avez le droit de répondre.
Moi, je connais juste la définition.
Est-ce que dans le public, il y a des gens qui veulent répondre ? Vous avez le droit.
Je crois que si aujourd'hui, s'il y a un couple où il y en a un qui est séropositif et un qui est séronégatif, c'est possible d'avoir des relations sexuelles même non protégées si la personne se traite et s'il y a un contrôle régulier. Enfin, aujourd'hui, c'est possible, quoi.
J'allais dire la même chose que Maud.
Et sinon, la prévention, oui. Le préservatif.
Sinon, il me semble possible d'embrasser les personnes séropositives sans risquer d'attraper le sida. C'est les rapports sexuels non protégés qui sont à risque.
Bah, globalement, c'est ça, mais on va quand même vous le redire en détail. Donc effectivement, le virus ne se transmet pas par la salive. Donc déjà, on peut s'embrasser sans risque, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Le virus ne se transmet par les muqueuses quand certains fluides sont en contact. Donc globalement, c'est ce qui va être les sécrétions vaginales, le sperme, le liquide sépinal, le sang, le lait maternel. Par contre, le virus ne peut pas passer la barrière de la peau tout seul. Donc encore une fois, bonne nouvelle, on peut se caresser, se masturber. Tout à l'heure, vous parliez de protection. Effectivement, en utilisant un préservatif pour la pénétration et la fellation, on évite aussi les risques. Et puis après, pour les pratiques orales, donc le cunnilingus, l'adunilingus, c'est pas très pratiqué et pas forcément très pratique, et ça reste sans doute assez obscur dans l'imaginaire de la plupart d'entre nous. Mais on peut aussi penser à la digue dentaire, ou autrement appelée le carré de latex, qui protège aussi des risques si on l'utilise correctement. Donc voilà, ces rappels, peut-être que vous étiez déjà au clair. On vous propose maintenant un petit vrai-faux pour aller plus loin et casser quelques idées reçues. Donc que vous soyez déjà renseigné, ou bien que vous n'ayez pas été sensibilisé à ces questions, on s'est dit que ça pouvait être l'occasion pour tout le monde d'apprendre quelques infos et de rappeler certains conseils. Alors, la première phrase, c'est par le contact direct avec une personne séropositive qu'on contracte le VIH. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
C'est faux.
C'est-à-dire
oui,
contact
c'est
direct.
Pas contact direct.
Ouais, qu'est-ce que c'est ?
Bah, à vous de l'interpréter.
Si tu devais pas ça.
Non,
c'est...
bah ouais. Donc non.
Et on a des bons élèves, effectivement c'est faux. Enfin oui, le sida peut s'attraper par contact direct, si on entend par là ce qu'on disait tout à l'heure, le partage des fluides, certains fluides corporels, mais c'est aussi possible de contracter le virus par le biais d'objets contaminés. Donc c'est le cas pour les personnes qui partagent des seringues, en ce qui concerne les usagers et usagères de drogues injectables. Ça peut aussi être le cas pour les piercings et les tatouages, si vous le faites dans des situations où les règles d'asepsie ne sont pas respectées. Et ça peut aussi être le cas pour le partage de vibro, par exemple, pendant un rapport sexuel.
Deuxième question. Deuxième proposition de phrase. Il est impossible de limiter les risques après un rapport sexuel non protégé.
C'est faux.
Et la PrEP.
Voilà.
C'est quoi la PrEP ?
La PrEP, ouais.
C'est quoi la PrEP ? C'est une bonne question. Est-ce que Jeanne, je te laisse répondre ? Ouais, ouais. Sauf si dans le public...
Ok, on a vraiment des bons élèves. Alors, ouais, vous avez une idée de ce que c'est la PrEP ? C'est ce traitement qui existe, qui se prend en continu pour pouvoir avoir des rapports sexuels non protégés avec une personne dont on sait qu'elle est séropositive. Il y a autre chose pour limiter les risques après un rapport sexuel non protégé, c'est le TPE, le traitement post-exposition. C'est un traitement qui est à prendre le plus tôt possible après un rapport à risque, un peu comme la pilule du lendemain, et jusqu'à 48 heures après. Et ensuite, si vous suivez le traitement quotidiennement, régulièrement pendant 28 jours, normalement, c'est un traitement qui est très efficace. Donc oui, c'est possible de limiter les risques après un rapport sexuel non protégé.
Encore une autre proposition de phrase. Les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes sont les personnes les plus touchées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
C'est faux.
C'est plus vrai aujourd'hui ?
Ça l'a été, mais c'est plus vrai.
Les HSH,
je pense que c'est vraiment faux.
C'est vrai ?
Ouais.
Moi aussi, je dis que c'est faux.
Ah, c'est le zoom.
Alors, tout le monde a raison. C'est vrai et c'est faux. En fait, c'est vrai si on regarde les chiffres en termes de prévalence, c'est-à-dire en termes de risque de contracter le sida. Par contre, si on regarde les chiffres globaux, aujourd'hui, 54% des personnes qui vivent avec le sida, ce sont des femmes ou des filles. Par contre, si on regarde au sein de la communauté des HSH, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, eh bien, le risque de contracter le sida est 27 fois plus élevé. Donc oui, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes font encore aujourd'hui partie des populations qui sont les plus à risque, avec d'autres minorités sexuelles et minorités de genre. Par exemple, on sait que les personnes transgenres ont 13 fois plus de chances de contracter le VIH que les personnes cisgenres.
Et c'est dû à quoi
Bah c'est dû à... C'est une sorte de... C'est, parce que ces populations sont plus vulnérables. Le mot d'ordre de la journée d'action contre le sida cette année, Égalité maintenant, ça met en valeur le fait que les personnes qui contractent le sida, c'est des personnes qui recoupent... plusieurs facteurs d'inégalité sociale. Donc, on sait aussi que les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est des populations qui sont plus exposées. Donc, en gros, si vous êtes des personnes, si vous faites partie d'un groupe qui est sujet à discrimination, les risques se cumulent en termes d'exposition au risque et de minoration des possibilités d'accès à la prévention aussi et au dépistage. Voilà. On vous propose une dernière. Proposition à tester pour la route. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le préservatif est le seul moyen de protection qui soit efficace ?
Non, du coup.
C'est ça, on a déjà un peu répliqué la question, mais donc il y a la digue dentaire qui est utilisée pour les pratiques orales. On en parlait tout à l'heure, il y a la PrEP. Donc, le vrai nom de la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition. Et donc, en plus, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de... permettre d'avoir des rapports non protégés sans risque avec des personnes séropositives. Il faut aussi savoir qu'on peut prendre la PrEP occasionnellement, donc si on sait qu'on va avoir un rapport qui sera potentiellement à risque. Donc c'était quand même important de le préciser.
Bon, voilà, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Vous saviez déjà pas mal des choses et on espère que ça en aura appris un peu plus à certaines qui nous écoutent. On voulait juste finir avec quelques informations pratiques parce qu'on s'est dit que ce serait utile de rappeler quelques contacts, notamment en ce qui concerne les possibilités de dépistage sur Lyon pour celles et ceux qui nous écoutent autour de nous à Lyon. Le dépistage, c'est une étape très importante. On sait qu'aujourd'hui, comme nous l'a rappelé Marie au début, 25% des personnes qui sont séropositives en France ne connaissent pas leur statut. Et donc, plus le VIH est détecté tôt, plus les traitements seront efficaces.
Donc du coup, depuis le début de l'année, la procédure est devenue plus simple pour se faire dépister en laboratoire. Donc par exemple, en ville, je sais que c'est le cas à Lyon, c'est possible sans ordonnance et souvent sans rendez-vous. Donc c'est quand même assez bon à savoir. Par ailleurs, il existe aussi des centres qui sont spécialement dédiés au dépistage, ce qu'on appelle les CEGID. En gros, ils proposent des dépistages anonymes et gratuits. À Lyon, il y en a deux. Il y en a un à l'hôpital de la Croix-Rousse, donc c'est Lyon 4, si mes numéros d'arrondissement sont exacts, et un à l'hôpital Édouard Herriot, je crois que c'est Lyon 3. Par ailleurs, il faut aussi penser au planning familial. Il y en a un à Villeurbanne qui propose des consultations médicales et des séances d'accompagnement. Et l'équipe est globalement bienveillante. Et justement, au sein du planning familial de Villeurbanne, il y a aussi un centre de documentation où beaucoup de ressources sont à disposition. Donc on n'y pense pas forcément, mais c'est quand même bon à savoir.
Et enfin, on n'oublie pas le CRIPS, le Centre de Documentation Régional, qui est spécialisé sur le VIH et les IST. Et il y a un CRIPS à Lyon, dans le 8e arrondissement.
Et avant de continuer, on voulait vous faire écouter le poème « I want a dyke for president », écrit en 1992 par Zoé Léonard et lu par Marie Tuomanen, j'espère que je prononce bien, de l'Iron Age Théâtre, qui montre l'importance de la représentation dans les instances politiques et culturelles.
I want a dyke for president. I want someone with AIDS for president. And I want a fag for vice president. I want someone with no health insurance. I want someone who lives in a place where the earth is so saturated with toxic waste that they had no choice about getting leukemia. I want a president that had an abortion at 16. I don't want a candidate who's the lesser of two evils. Someone who's lost their last lover to AIDS, who sees that in their eyes every time they lay down to rest, who held their lover in their arms and knew they were dying. I want a president with no air conditioning. Someone who has stood in line at the clinic, at the DMV, at the welfare office. Someone who has been unemployed and laid off and gay-bashed and sexually harassed and deported. I want a president that spent the night in the tombs and had a cross burnt on their lawn and has survived rape. I want a president that has been in love and hurt, someone who respects sex, someone who has made mistakes and learned from them. I want a black woman for president. I want someone with bad teeth. Someone who has eaten hospital food. Someone who cross-dresses and has done drugs and has been to therapy. I want someone who has committed civil disobedience. And I want to know why this isn't possible. I want to know where we started believing somewhere down the line that a president is always a clown. Always a John and never a hooker. Always a boss and never a worker. Always a liar. Always a thief and never caught.
Voilà, on a une pensée pour les personnes qui étaient venues en studio pour manger la bûche et qui se retrouvent à écouter un poème de Dyke énervé. On n'est pas désolé. On tenait à passer cet extrait parce que c'est un poème très fort. On sent la détresse, on sent la rage et... Pour faire écho à ce poème, on voulait justement revenir sur la question de la représentation des minorités sexuelles et de genre dans les manifestations liées au VIH-SIDA. Le poème qu'on vient d'écouter, il a été composé au plus fort de l'épidémie, quand il n'y avait pas encore la trithérapie, en 1992, par une personne concernée. Et en fait, ce qu'on a appelé rétrospectivement les années SIDA, dans les années 80-90, ça a été une période de mobilisation intense, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Une période où les malades, les proches, les militants, les militantes ont cherché à interpeller le public et les politiques à travers des créations artistiques et des nouvelles formes de manifestation. Vous connaissez peut-être cette histoire, c'est une histoire qui aujourd'hui est assez bien documentée, avec notamment des noms d'artistes qu'on associe immédiatement à l'engagement artistique contre le sida, comme Keith Haring par exemple. Et je voulais te demander, Marie, c'était quoi pour toi les œuvres et les rencontres par lesquelles tu as été sensibilisée à cette maladie et à son histoire ?
C'est une bonne question. Sans doute comme beaucoup de gens, je ne me sentais pas forcément concernée ni même particulièrement intéressée par la question du sida et du VIH il y a encore quelques années. jusqu'à ce que je découvre dans une salle de cinéma, tout ce qu'il y a de plus classique, le film 120 battements par minute. Ce film qui est donc sorti en salle en 2017 et qui a été réalisé par Robin Campillo, encore une fois j'espère que je prononce bien, retrace l'histoire d'Act Up Paris et notamment l'histoire de deux militants, Nathan et Sean, Sean qui est séropositif. Donc dans ce film, on y voit les réunions hebdomadaires au sein desquelles les uns et les autres prennent la parole, racontent leur parcours, leur lien en fait avec le VIH et le sida. On y voit aussi les actions sur le terrain, on y voit les moments de danse entre les deux jeunes hommes, et on voit aussi la progression du sida chez Sean. Ce film, moi j'en suis sortie en étant assez bouleversée, parce que c'est une plongée directe dans ce monde-là, et que, attention, spoiler pour ceux et celles qui l'auraient pas encore vu, bah, ça finit pas très bien pour les jeunes couples. Et aussi parce que la musique, les plans, transmettent une émotion et une sensibilité que j'ai trouvée vraiment très importante et très impressionnante. Alors, je sais que ce film, c'est devenu un grand classique concernant les œuvres qui parlent du sida, mais comme ça a été le premier qui m'a fait découvrir ce monde et cette réalité, et qu'il est juste magnifique, bah, je pouvais pas ne pas en parler. Donc vraiment, si parmi vous, auditeurs et auditrices, certains ou certaines ne l'auraient pas encore regardé, je vous encourage grandement à le faire. Et pour parler de quelque chose de plus récent, même si c'est pas une œuvre qui en parle à part entière, j'ai également été très touchée pendant la diffusion de la première saison de Drag Race France par l'épisode durant lequel Lolita Banana, qui est donc une des drag queens qui participe à la compétition, se livre sur sa séropositivité, sur le regard de ses proches, etc. Ce passage, alors même qu'il a lieu au milieu d'une compétition, sous l'œil des caméras, bah en fait, je l'ai trouvé très beau, très touchant, et je trouve que ça montre que même si c'est pas toujours évident d'en parler, et encore moins à la télé, de se livrer, bah c'est tout à fait possible de vivre avec le VIH, et c'est possible d'en être fier, de l'assumer pleinement, et je trouve que ça fait du bien. Et du coup, là, je vous propose d'écouter justement cet extrait où Lolita Banana se livre sur sa séropositivité.
Je sais pas si je vous avais parlé de ça, non, en fait, non, pas du tout. Mais je suis séropositive et quand j'ai parlé avec mes parents de ça, c'était dans un mood de tout se passe bien, en fait, il y a pas de drama. Et en fait, j'essaie de faire l'attention, de faire beaucoup d'attention à mon hygiène de vie, à mon corps, parce que j'ai envie de montrer à mes parents et à tout le monde qui me regarde que être séropositif, c'est pas être maigre et avoir la tête d'un zombie, un cadavre, c'est plus ça. Et ça me rassure de les rassurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, que je suis un adulte homosexuel, queer, drag queen, séropositif, latino, immigré, tout ça, et que je veux, et que ça va.
Que tu embraces ça. Waouh, chérie. Wow.
Ça me touche quand Lolita se confie, je savais pas du tout. Et je trouve ça très. Très courageux et vraiment hyper bien de sa part qu'elle prenne la parole et qu'elle puisse se confier comme ça.
J'ai eu autour de moi des personnes séropositives et c'est quand même encore un sujet qui est très tabou. Et bravo à elle, vraiment.
Je suis d'accord avec toi Marie, je pense que c'est un récit qui est important à diffuser. Et comme la deuxième personne qui prenait la parole pendant l'extrait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, ça reste difficile d'ouvrir le dialogue sur cette question, parfois parce qu'on a peur, ou parfois parce qu'on a honte, ou juste parce qu'on peut avoir du mal à prendre la mesure du risque et à ne pas se dire que ce serait une maladie du passé. Alors que c'est pas une maladie du passé, ça reste un enjeu primordial d'en parler, de continuer à s'informer, à sensibiliser, ne serait-ce que pour réussir à balayer les préjugés contre les personnes séropositives. Et aussi, bien sûr, parce que c'est important de ne pas rester seul avec ses peurs ou avec ses doutes. Comme toi, Marie, j'aimerais donc évoquer rapidement trois œuvres qui nous parlent de ce qui nous lie aux autres, malgré la maladie et avec la maladie. Une série de photos, d'abord, qui s'appelle « The Ballad of Sexual Dependency » de Nan Goldin. C'est une photographe états-unienne qui est devenue assez célèbre pour cette série. Et dès la fin des années 70, Nan Goldin documente la scène underground new-yorkaise et les milieux queer dont elle est proche. Et elle saisit des moments, des ambiances, mais surtout des relations intimes. Il y a beaucoup de portraits, des relations intimes entre les membres de cette communauté. Et elle est là, au début des années 80, elle montre comment la maladie les impacte et comment elle modifie, elle bouleverse leur vie quotidienne dès les premières années de la pandémie. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quelque chose d'empathique, je trouve, dans ces images. On voit vraiment qu'elle est proche de celles et ceux qu'elle prend en photo. Elle les montre jamais uniquement comme des victimes, même sur les photos qui sont très dures, qui sont prises à l'hôpital, sur les photos où les corps souffrent. Et même au moment qui ont l'air les plus difficiles, souvent on voit des gestes de tendresse, de complicité, des effusions entre des personnes entre lesquelles on sent un lien très fort. Voilà, ça s'appelle The Ballad of Sexual Dependency de Nan Goldin. N'hésitez pas à googler, il y a certaines photos qui sont visibles en ligne et l'expo repasse souvent dans des musées et dans le cadre d'expositions. Deux mots ensuite sur des œuvres littéraires. Une deuxième dans le contexte états-unien, c'est la biographie Fairyland de Alicia Abbott. L'autrice a grandi à San Francisco dans les années 80 et elle a été élevée par son père, qui est un homme gay. Donc ce livre, c'est sa biographie. C'est un livre qu'elle lui consacre pour retracer sa vie et pour raconter, à partir de ses souvenirs, sa relation avec lui. C'est des choses très simples, c'est leur bonheur, leur petit bonheur au quotidien. Et puis ensuite, comment ce quotidien change quand son père apprend sa séropositivité. C'est pas du tout un récit édulcoré. L'autrice n'hésite pas à entrer dans des détails concrets qui peuvent aussi être douloureux sur la vie avec un proche qui est malade. Mais là non plus, on ne perd jamais de vue ce lien qui les unit jusqu'à la fin. Et un dernier mot du côté français cette fois. J'ai pensé à la pièce de théâtre « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce, que vous connaissez peut-être pour avoir été adaptée par Xavier Dolan au cinéma il y a quelques années. Ça peut paraître une recommandation un peu paradoxale, puisque justement, c'est une pièce qui nous montre toutes les manières dont on peut galérer à parler, échouer à parler, les manières dont la parole se noie dans le banal, quand des fois elle est réduite au silence ou quand des fois elle est mal comprise. Et « Juste la fin du monde », c'est une pièce donc, qui montre combien la parole est vulnérable, comment c'est difficile de se comprendre vraiment dans le dialogue. L'intrigue est assez simple. La pièce se centre sur le personnage de Louis, qui revient dans sa famille. Sa famille avec qui il a coupé les ponts. Et là, il revient pour leur annoncer qu'il est atteint d'une maladie grave. Donc, il doit juste arriver à leur annoncer la nouvelle. Et c'est pas la fin du monde. Pas vrai. Pourtant, si. Un peu, en fait. Et toute la pièce est tendue autour de cette parole retenue. Une parole qui cherche comment se dire, comment être entendue tout au long de la pièce. Et sans vouloir spoiler, c'est pas évident. Mais le fait même que la pièce existe, je trouve qu'elle a été écrite, même si c'est pour dire, la difficulté de dire, eh bien, j'avais le sentiment que c'était déjà une tentative. Donc vous connaissez peut-être déjà cette pièce. Ce qui me paraissait important de rajouter, c'est qu'elle a une forte tendance autobiographique, puisque l'auteur Jean-Luc Lagarce l'a écrite alors qu'il se savait atteint du sida, et il l'a écrite quelques années avant de s'éteindre lui aussi des suites de la maladie.
Et justement, on vous propose d'écouter le tout début qui est joué par la Comédie Française.
L'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai, l'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini, l'année d'après. Comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit, ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après. Malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable.
Voilà, donc cet extrait, je trouve, il est quand même, c'est le tout début, il est quand même assez poignant. Alors évidemment, il y a une multitude d'œuvres qui traitent de la question du sida, du VIH, de comment vivre avec, comment en parler. Mais notre temps n'étant pas infini, d'autant plus qu'on a commencé en retard, on vous conseille d'aller regarder sur le site du SIDAction, ou même simplement de contacter directement Arc-en-Ciel si cette thématique vous intéresse. On voulait aussi vous rappeler qu'il est possible de faire des dons, soit par SMS, soit par prélèvement automatique, mais que même si c'est pas possible, en parler autour de vous, c'est déjà une première étape pour agir. Et du coup, j'en profite pour te remercier, Jeanne, d'avoir accepté de venir parler de cette journée mondiale de lutte contre le sida en ce 1er décembre. Et puis, je vous laisse découvrir ce qu'on vous a préparé pour la deuxième case, la troisième émission de ce direct de La Voix.
Ah oui. Bravo.